Alors que la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF se poursuit, un groupe d'artistes universitaires lançait le 23 mars une cagnotte pour leur porter soutien. Si l'intersyndicale entend continuer le mouvement, le gouvernement ne faiblit pas, affirme sa détermination à aller jusqu'au bout de ses projets. Le train de la réforme va-t-il trop vite pour en parler aujourd'hui? Je reçois Olivier Mongin, bonjour. Vous êtes directeur de la publication de la revue Esprit et vous avez été directeur de la rédaction de 1988 à 2013, la date importe. Alors, vous ne représentez pas la revue Esprit ici, vous représentez Olivier Mongin, mais j'ai souhaité vous inviter parce que il y a un événement dont les plus jeunes ne se souviennent probablement pas, la grande grève de décembre 95, qui a marqué les esprits, non seulement parce que celle-ci a provoqué toutes sortes de dialogues et également de manifestations en France, mais elle a également provoqué de nombreuses controverses au sein de la classe intellectuelle française, des controverses où Esprit était partie prenante. Et j'aimerais, Olivier Mongin, que vous nous rappeliez votre vision de ce qui s'est passé en 95, de ce qui s'est passé à Esprit, c'est-à-dire sur le front intellectuel, si j'ose dire, et quels sont les points communs avec ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui en France.
Oui, merci. 95, c'est 23 ans déjà derrière nous. Je ne sais pas quel âge avait Macron, quel âge avait Édouard Philippe. Je ne sais pas s'ils se souviennent de 95. Mais 95, très important, parce que c'était une polémique d'une violence terrible, en tout cas au sein du monde intellectuel. C'est des clivages qui ressortent toujours aujourd'hui. Je voudrais juste rappeler un peu les faits. 95, il y a deux temps à prendre en considération. C'est Monsieur Juppé qui est sous Chirac, là, Premier ministre. Il y a d'abord une réforme de la sécurité sociale. Réforme de la sécurité sociale. Et en fait, là, il y a une quasi-unanimité. Vous prenez le journal Le Monde, qui est à l'époque dirigé par Colombani Plenel. Tout le monde soutient la réforme de ce qu'on appelait la réforme de la Sécu. Ce qui voulait dire qu'on s'accordait tous à ce qui, l'idée d'une réforme de l'État-providence, qui est encore au centre, là, de ce qui se passe avec la SNCF. Ensuite est intervenue une question qui nous ramène à la SNCF, c'est la réforme du régime spécial des retraites de la SNCF. Réforme qui n'est pas prise en considération dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand on arrivera sur les retraites, vous me direz, c'est pas sans lien avec le statut, ce sera extrêmement important. Et c'est là où les choses ont commencé à brûler, c'est le cas de le dire. Souvenez-vous, on est en 95, c'est l'hiver. Il y a des images, on doit voir Bourdieu dans une gare avec des cégétistes cheminots.
Et, c'était la gare de Lyon le 12 décembre 1995.
Voilà, ben, bravo. Donc vous avez une mémoire encore très forte. Et là, on se souvient des braseros, du feu. Donc il y avait tout un. C'est pas une question d'imaginaire, je veux dire, mais il y avait une ambiance qui était quand même dure. Et on a encore les images dans la tête. À ce moment-là. Il y a eu des pétitions d'un côté et de l'autre, et il n'y a pas qu'Esprit hein, qui a signé une pétition. Je connais même, je pourrais les citer, des gens qui sont un peu des radicaux qui ont signé les deux pétitions à l'époque, comme quoi il y avait un peu une incertitude, c'était compliqué.
Qui, par exemple,
Olivier Mongin ? Quelqu'un que j'admire et que nous admirons tous, qui n'est plus là aujourd'hui, comme Robert Castel, qui était un homme de la gauche plus radicale.
Donc un sociologue, marqué à gauche.
C'est pour dire que c'était compliqué. On soutenait la réforme de l'État-providence sur le plan de la Sécu, et en même temps, sur la SNCF, on voyait bien que ça tanguait.
Mais alors vous, Olivier Mongin, vous étiez favorable à la réforme de la sécurité sociale, étiez-vous également favorable à la réforme de la SNCF ?
Pour nous, c'était un peu on était la gauche réformiste, pour parler comme ça. C'était l'idée d'un gros paquet qui allait permettre justement d'engager ce que vous avez appelé tout à l'heure le train des réformes. Mmh. Hein, c'est le cas du rondier, le train des réformes. On avait tendance à mettre ensemble les deux, et c'est là-dessus que ça patinait. Mais c'est très important de comprendre qu'il n'y avait pas un désaccord sur les deux. Et donc, c'est quand même la question de la SNCF qui a été au centre après. Au fond d'un mot, qu'est-ce qui se passe à l'époque ? S'il y a une gauche réformiste que nous représentons d'une certaine manière, qui va engager d'ailleurs la réforme Sécu, et aujourd'hui d'ailleurs cette réforme n'est pas négative, hein, on pourrait y revenir, et de l'autre côté il y a ce qu'on pourrait appeler une gauche qui est un peu mouvementiste. À l'époque, il y a l'idée de ce qu'on retrouve aujourd'hui d'une convergence des luttes. C'est l'idée un petit peu radicale et même, je dirais, révolutionnaire. Donc il y a un petit côté réforme, révolution, tout ce que vous voulez, qu'on retrouve pas nécessairement aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est qu'à l'époque, on soutient aussi pour cela la CFDT. La CFDT, c'est Nicole Notat. Oublions pas qu'elle était molestée par des molosses que je ne sais pas d'où ils sortaient, mais durant une manifestation, il y a même eu, on pourrait dire, un courant un peu féministe qui a soutenu Nicole Notta face à une espèce de violence masculine dans les manifestations. Donc, il y a eu tout un truc compliqué, mais qui a amené finalement à être pour ou contre la CFDT. Donc, c'est le syndicat réformiste qui... Bon, alors, vous voyez bien la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la CFDT a rejoint le mouvement syndical. D'une certaine manière, le projet de réforme de la SNCF d'aujourd'hui a créé une unité syndicale, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'est ça la très grosse différence, c'est qu'on est passé d'un syndicalisme un peu morcelé où la CGT était majoritaire à une unité syndicale aujourd'hui qui est très compliquée. Je pourrais m'arrêter. La CFDT, c'est pas la CGT, c'est pas l'UNSA, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà.
1995, pour moi, c'est une date extrêmement importante parce qu'elle marque une rupture au sein de la gauche. La droite, évidemment, à l'époque, était hostile à la grève. Au sein de la gauche, il y avait une partie des intellectuels, symbolisée par Pierre Bourdieu, qui considérait que le mouvement était un mouvement pour la défense de la civilisation. C'était ses mots et dans ce fameux discours qu'il a tenu à la gare de Lyon le 12 décembre 1995. Et puis de l'autre côté, il y avait une partie de la gauche qui considérait, elle, que ces réformes étaient nécessaires et Esprit symbolisait cette gauche réformiste.
Oui, enfin, Esprit, derrière la CFDT, ce qui était très important, c'était ce que représentait alors la CFDT, justement. Et donc, mais c'est-à-dire...
Est-ce que vous regrettez d'avoir été du côté, je parle collectivement, seulement Olivier Mongin, mais est-ce que, rétrospectivement, vous vous dites que, finalement, vous avez eu un point de vue à l'époque qui aurait dû être plus marqué à gauche, plus en faveur de la défense des services publics?
Non, mais la défense des services publics, nous pensions la faire en étant favorable à une défense, je dirais, d'un projet réformiste qui allait toucher les rapports de l'État et de la société. Il y avait, c'est pas du tout contre les cheminots, contre le service public, nous étions sur cette ligne-là. Je pense que à l'époque, il y avait quand même l'idée que le social était plus important, ce qui est le cas aujourd'hui, que le national ou l'identitaire.
C'est-à-dire,
on était encore dans un moment où les luttes s'organisaient autour de qu'est-ce qu'on peut faire dans le social. On parlait plus nécessairement trop de lutte des classes, même si c'était pas le vocabulaire de Bourdieu non plus. On parlait pas de lutte des classes, mais l'idée c'était le social. C'était la question de l'emploi. C'était ces questions-là qui étaient centrales. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait un clivage entre ceux qui ne prenaient en compte, d'ailleurs ce qui était le cas des syndicats la plupart du temps, que le salariat. Hein, et non pas les gens qui étaient des précaires ou des chômeurs. Alors on avait notre petit côté deuxième gauche qui prenait les outsiders.
La deuxième gauche, il faut définir.
La deuxième gauche, c'est cette gauche réformiste qui était marquée par Rocard. Et au fond, d'ailleurs, on retrouve toutes ces questions aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé pour la modernisation de l'État. C'est une gauche qui est favorable à la modernisation de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un autre débat. Et ouverture à la société civile. Et donc, on voit très bien comment cette deuxième gauche, elle a préparé un peu Macron, d'une certaine manière. Mais on peut pas réduire Macron du tout à cette deuxième gauche, parce que cette deuxième gauche était, d'une certaine manière, anti-étatique. Elle venait de ce qu'on appelait la gauche anti-totalitaire. Et c'est vrai que dans le débat qui avait là, nous, les communistes, la CGT, c'était quand même pas effectivement ce qu'on préférait au monde.
Alors il y avait une scission qui était intéressante, c'était celle donc qui était marquée par Bourdieu d'un côté et par Ricoeur, parce que dans ce célèbre texte, il pointe du doigt un philosophe qu'il ne nomme pas, mais en réalité il s'agit de Ricoeur, et il moque Ricoeur parce que Bourdieu savait avoir la dent dure, il moque Ricoeur qui avait donné une interview au journal du dimanche, déjà, pour dire que la rationalité était du côté de ceux qui s'opposaient à la grève. Ce qui veut dire que pour les intellectuels, finalement, Olivier Mongin, il y aurait a priori un raisonnement à tenir pour savoir ce qu'est la rationalité. Si on peut discuter d'une réforme telle que celle de la SNCF hier ou aujourd'hui avec des arguments rationnels, ou bien s'il s'agit d'un choix de civilisation avec des valeurs, parce que c'est toujours compliqué finalement de démontrer des valeurs. On les ressent ou on ne les ressent pas.
Oui, enfin, au passage, Bourdieu n'était pas nécessairement gentil. Il attaquait Ricoeur, qui était un réformiste. On peut revenir sur Ricoeur face à 68. Beaucoup de gens déjà évoquent toutes ces interrogations. Il l'a traité parce qu'il avait écrit dans le journal du dimanche de philosophe du dimanche, qui était un petit peu facile. Sur l'œuvre de Ricoeur, c'est pas à moi, j'ai écrit des livres sur Ricoeur, d'en parler ici. C'est bien entendu une œuvre que vous ne pouvez pas réduire à un rationalisme. Sur les valeurs, tout le travail de Ricoeur consiste à montrer justement que les valeurs, elles sont pas immobiles, même si c'est des valeurs liées lié à l'histoire de notre République, etc., à ce qu'on appelait avec beaucoup de guillemets un roman national, les valeurs, elles s'inscrivent dans une histoire. Et tout le problème contemporain aujourd'hui, c'est justement, est-ce que nos valeurs qui sont liées à notre propre histoire, nous pouvons les inscrire dans une histoire qui n'est pas nécessairement liée qu'à l'histoire nationale. C'est tout le débat. Est-ce que c'est ce que Macron appelle le nouveau monde? Je sais pas, ça part dans plein de directions. Mais c'est la mondialisation. C'est-à-dire, c'est les effets de la mobilité, c'est les effets des flux, de la révolution numérique, sur tous les lieux, sur tous les espaces. Et ça, il faut la prendre en considération. Ça veut pas dire que nous, il faut s'adapter à cette mondialisation. Mais la grande question qui n'était pas la question de 95. On parlait à peine de numérique à l'époque. On parlait pas du tout de transition écologique, etc., etc., de problèmes climatiques. Donc le monde a énormément changé. Il est changé, il est devenu même plus catastrophiste d'une certaine manière. Mais la question que posait très bien Ricoeur, c'est est-ce qu'on est encore dans une histoire ou est-ce qu'on est rentré dans une société qui n'est faite que de droits, de procédures, de contrats, de règles et qu'on peut gouverner, c'est le problème actuel sur lequel on reviendra peut-être, uniquement avec l'opinion. Est-ce que d'un côté on a les experts, de l'autre côté l'opinion, et est-ce que moi, président de la République, je fais un peu mon micmac entre les experts et l'opinion? Est-ce que l'opinion va me permettre, je vais regarder les sondages hier, de faire ma réforme de la SNCF ou de faire la réforme des institutions? Voilà, moi je pense que le philosophe qu'aujourd'hui est souvent évoqué en ce qui concerne Macron, c'est Habermas, c'est le grand philosophe allemand, c'est pas...
Et Ricoeur pas trop vite en besogne. Est-ce que le fait d'associer Macron et Ricoeur est abusif selon vous, tout d'abord?
Qu'ils aient eu des liens, il a été éditeur, j'en suis témoin, il n'a pas du tout été assistant au sens universitaire, comme on l'a fait dire.
Bon, après, mais est-ce que ça façonne sa pensée
ou moi, personnellement, je ne fais pas partie des gens, je connais vraiment bien Ricoeur, qui pensent que, effectivement, ça a façonné la personne. Ça n'a pas, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça travaille sur la politique macronienne, ça je pourrais y revenir éventuellement.
Vous connaissez bien Emmanuel Macron aussi, puisque vous l'avez embauché à Esprit.
Je ne l'ai pas embauché au sens où on n'embauche personne, parce que...
Vous l'avez fait écrire.
Il était salarié. Je l'avais connu par Ricoeur, puisqu'il il a travaillé à des livres de Ricoeur. Il est resté 7 ans dans notre comité de rédaction.
C'est pas rien, il pensait quoi à l'époque?
Contrairement à des gens qui disaient disent qu'il faisait surtout des textes de philo, etc., il a fait des papiers très importants, dont l'un qui s'appelle Les labyrinthes du politique, qui est un ouvrage sur l'idéologie, qui est intéressant pour comprendre même sa manière de travailler aujourd'hui, mais qui sont toujours des papiers sur la réforme de l'État. Donc cette question-là, c'était le jeune énarque, il était à Strasbourg la plupart du temps. Cette question de la réforme de l'État était la question centrale. Tout ça pour dire que si on veut comprendre Macron, il a un côté deuxième gauche, un pied dans la société, et de l'autre, c'est quelqu'un qui a un sens de l'État très très fort. C'est pas un libéral, au sens où on présente le libéralisme économique, c'est pas simplement un homme de la société civile, c'est quelqu'un, on le voit très bien dans les réformes actuelles, cette volonté de réforme, c'est quelqu'un qui est très étatique. À tel point qu'effectivement, la social-démocratie à la française, je dis bien, qui est une social-démocratie fragile, faible, peu de syndiqués, on n'est pas dans les social-démocraties nordiques, vous le savez bien. Macron n'aime pas trop les corps intermédiaires. En sens là, il est révolutionnaire, d'ailleurs, au sens classique. Il n'aime pas les corps intermédiaires. Macron, il a un pied dans l'État, il a un pied dans la société civile. Et tout le problème de Macron, il est là. Est-ce qu'on peut repenser des médiations de cette société qui est française, qui est très pyramidale, avec une culture politique très pyramidale? Macron, il la prend un peu à rebrousse-poil, puisque sa révolution, elle travaille la société sur un mode assez économique, c'est toutes ces réformes sur le droit du travail, etc. Et de l'autre côté, il est très étatique, beaucoup plus étatique qu'on ne veut bien le croire. Ça, on pourra y revenir
mais
aussi.
Mais alors, justement, comment pouvez-vous réformer la société si vous ne vous appuyez pas sur les corps intermédiaires comme Macron, a priori, ne veut pas le faire, puisque vous considérez qu'il est aujourd'hui...
Non, je ne dis pas qu'il ne veut pas le faire. Ce que je remarque, et avec
cas,
un certain
syndicats.
Regret, c'est qu'il a réussi, et ça nous ramène à la réforme antérieure sur le droit du travail, il a réussi à quand même à buter Laurent Berger et les gens de la CFDT, qui sont quand même des réformistes, à les ramener justement sur ce mouvement d'unité syndicale. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne suis pas conseiller du prince, je ne traîne pas à l'Élysée le soir, donc je ne peux pas vous dire. Et donc, effectivement, mais je vois que chez lui, il y a cette fragilité. Alors pourquoi? Je pense que Macron, il a fait 5 ans d'Élysée, et là, il a vu où ça butait. Et quelque part, et là, c'est là où il faut discuter, jusqu'où on démarre une négociation, comment on la démarre, est-ce que c'est possible, etc.
Le fait de s'en prendre à la SNCF, Olivier Mongin, on se souvient que c'est là que Juppé avait achoppé. Est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté chez Macron de montrer qu'il peut réussir là où d'autres ont échoué en utilisant ce statut dont on voit bien que c'est plus une question symbolique qu'une question véritable d'économie?
Oui, bien entendu que pour lui, c'est la réforme des réformes, réussir la réforme de la SNCF. Bon, là, on a déjà plus trop le temps, mais je pense qu'il faudrait quand même voir que sur les trois questions qui sont centrales, la dette, la concurrence et le statut, les choses ont déjà beaucoup bougé. La dette, tout le monde est d'accord pour la renflouer, mais qui va le faire? Est-ce que c'est l'État? Les syndicats ont des propositions? La concurrence, là, il y a eu un travail au long cours au sein de la... Il y a du non-dit, il n'y a pas de transparence. Et sur la concurrence, faut jamais oublier que le fret est déjà en concurrence depuis 2006. Et que alors, pourquoi en 2006 et pourquoi les TER, ce sera plus tard, etc. Il y a eu une non-transparence qui est un problème énorme. Et sur le statut, c'est une autre question qui touche quelque part un patrimoine à la française, c'est-à-dire le cheminot, c'est-à-dire Jean Gabin qui conduit le Lison, c'est-à-dire la bataille de la résistance, c'est-à-dire mille choses. Mais aujourd'hui, le problème de la SNCF, c'est qu'elle est gérée comme l'aviation et non plus comme le train. Ça, on pourra en reparler.
On en reparle aux environs de 8h20 et puis on verra justement comment on peut gouverner entre experts et opinion publique, thème que vous avez commencé à aborder, Olivier Mongin, et qu'on développera aux environs de 8h20 car il est 8h sur France Culture. Et je vous souhaite un bon réveil si vous nous rejoignez.